18h. Jérémy Pignard.
Bonsoir. La réforme des retraites a échoué. Une majorité de cantons et de la population l'a rejetée, mais l'arc jurassien ne suit pas la tendance suisse puisque le Jura, Neuchâtel, Berne ont dit oui. En revanche, c'est un plébiscite sans surprise pour la sécurité alimentaire largement adopté. Aucun canton n'a voté contre. Des résultats que l'on va décrypter avec la conseillère aux États PDC, Anne-Sédou Christ, qui est en studio avec nous. Villeray et La Ferrière disent non à la fusion des communes du vallon de Saint-Imier. C'était l'un des objets communaux importants soumis aujourd'hui à votation. Un comité de pilotage continuera donc ses travaux, mais sans ces deux communes. Jeremy Hunt pulvérise son record sur le trophée de la Tour de Moron. Il a mis ce matin plus de 4 minutes dans la vue à ses concurrents. Et pour lui, c'est presque une surprise. Vous l'entendrez dans notre page sport. La météo, le temps qui restera calme et sec cette nuit. Demain matin, comme aujourd'hui, ce sera du soleil malgré quelques bancs de nuages. Des nuages qui vont s'intensifier dans l'après-midi avec quelques gouttes possibles. Les températures entre 7 et 9 degrés le matin, autour de 20 degrés l'après-midi. La Suisse a dit non sur le paquet de la réforme des retraites. Au niveau national, la réforme de l'AVS a été retoquée avec 52,7% de non. Le principe du financement de la prévoyance vieillesse 2020 via une hausse de la TVA est lui aussi tombé. Une majorité de cantons a voté contre. Parmi les conséquences directes de ces résultats, les femmes pourront continuer de travailler jusqu'à 64 ans. L'âge de la retraite n'est donc pas relevé. Anne-Sédou Christ, conseillère aux États PDC, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous militiez en faveur du oui avec le PDC. Votre première réaction, c'est une réforme dans laquelle vous placiez beaucoup d'espoir qui vient de s'écrouler.
Absolument, je suis extrêmement déçue par ce résultat, même si je suis très contente des résultats du canton du Jura sur ce sujet. Je crois qu'on a raté là une belle occasion de maintenir le niveau des rentes et d'en assurer le financement pour les 10 à 15 prochaines années et de renforcer notamment le premier pilier. Et je crois que les gens qui ont pris cette responsabilité en semant le doute dans la population devront maintenant proposer très rapidement un projet qui soit aussi bon que celui-là. Je les attends au contour.
Quand on est élu PDC, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit le résultat? Est-ce qu'on se dit effectivement peut-être que le système qui était proposé n'était pas bon?
Non, je pense pas. Je pense que c'est la meilleure réforme possible qui a été proposée. C'est un système complexe, mais on a un système de prévoyance vieillesse complexe en Suisse avec 3 piliers. Effectivement, on jouait sur les 2 premiers piliers, mais qui sont, de par la loi et de par la Constitution, des piliers complémentaires et qui doivent ensemble assurer à la population des rentes équivalent à environ 60% de leur dernier salaire. Donc, il y avait une logique et une cohérence à jouer sur ces 2 piliers. On voulait aussi, nous, au niveau du PDC, comme de la gauche, renforcer le premier pilier pour les gens qui sont en moins bonne situation, pour les femmes, pour les personnes qui travaillent à temps partiel, pour les bas revenus et qui souvent ne peuvent pas accéder à un deuxième pilier. Eh bien voilà, c'est une occasion ratée. Et le PDC a toujours été un parti constructif, un parti qui se met en quatre pour faire des compromis. Et maintenant, on attend de voir les propositions qui seront faites.
Avant de poursuivre plus loin, on va écouter une réaction parce que le projet a sans doute souffert des attaques cumulées du PLR, de l'UDC d'une part et puis de ce qu'on appelle la gauche de la gauche d'autre part. C'est un travail débuté en 2011 qui est réduit à néant. La situation du premier et du deuxième pilier dont le financement n'est pas éternel reste donc un sujet critique. Écoutez Alain Berset, le conseiller fédéral en charge du dossier.
Ça fait 20 ans que nous essayons de réformer la prévoyance vieillesse. Nous savons, et c'est incontesté, qu'il y a un problème de financement dans le premier pilier. Nous savons, c'est également très largement incontesté, qu'il y a aussi un besoin de réforme dans le deuxième pilier. Nous avons, avec le Conseil fédéral, ces 6 dernières années, beaucoup travaillé, puis ensuite avec le Parlement, pour porter une réforme qui soit un compromis, qui soit équilibrée, qui permette de garantir le niveau des rentes. Et aujourd'hui, bien voilà, le résultat est tombé. C'est pas des majorités écrasantes, mais enfin, c'est non. Et c'est un résultat qu'il faut accepter. Et puis, avec lequel nous allons naturellement devoir maintenant travailler pour la suite.
Anne-Sédou Christ, beaucoup d'observateurs le disent, c'est aussi le pari perdu d'un homme, Alain Berset.
Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Je crois qu'Alain Berset avait présenté un projet de réforme qui a été remanié par le Conseil des États, auquel pas seulement Alain Berset, mais le Conseil fédéral dans son ensemble s'est rallié, puisque c'est aussi un projet du Conseil fédéral. Et moi, je suis contente qu'Alain Berset, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, intelligent et pragmatique, et qui a un sens social, eh bien, reste au pilotage des réformes à venir.
Ce que l'on observe aussi également dans ces résultats, c'est que l'arc jurassien va à contre-courant de la tendance nationale. Je vais donner quelques chiffres. Le Jura dit oui à 56,8% à la réforme de l'AVS, oui également au financement par une hausse de la TVA. Pareil à Neuchâtel, c'est un peu plus serré, 51,83% de oui sur l'AVS. Et puis à Berne, on a dit oui, mais à 29 voix près seulement, donc c'était vraiment du 50-50. Comment expliquer ces résultats, le fait que l'arc jurassien soit vraiment à l'opposé de la tendance nationale?
Je crois que dans l'arc jurassien, on s'est donné beaucoup de peine pour expliquer cette réforme à la population. Réforme qui est complexe et qui est difficile à expliquer aussi,
il faut bien le dire. C'est une question de campagne, finalement.
C'est aussi une question de campagne. Et je pense que les jurassiens ont été sensibles majoritairement à ces arguments. Le PDC, le PS, le PLR, les Verts, enfin, la plupart des partis étaient favorables à cette réforme, se sont engagés pour cette réforme. Et j'espère que j'oublie personne dans les partisans, aussi la Chambre de commerce, la Fédération des entreprises romandes. Tout le patronat roman était favorable à cette réforme, il faut aussi le relever. Et je crois que la population jurassienne, qui est aussi une population pragmatique, s'est dit que tout bien pesait, et j'en discutais encore hier soir avec des personnes au concert, eh bien, il valait mieux cette réforme-là qu'un statu quo qui n'allait pas rester un statu quo très longtemps et qui allait certainement aboutir à une situation plus difficile au niveau des deux piliers et par conséquent à des réformes qui seraient plus difficiles pour la population.
Pour revenir dans le plus technique, le peuple suisse n'a pas voulu augmenter les rentes AVS de 70 francs. C'est un des arguments du rejet, en tout cas selon l'UDC et le PLR, qui sont les farouches opposants au projet. Les deux parties critiquaient la hausse des nouvelles rentes qui devaient servir de compensation aux pertes dans le deuxième pilier. C'était un mélange qui ne leur convenait pas. La droite est en position de force désormais, même si le référendum a été lancé par la gauche de la gauche, qui ne voulait pas de retraite à 65 ans pour tous. Mais justement, sur ce point, on écoute les réactions de Petra Gössi, la présidente du PLR.
Quand on regarde les résultats, on voit clairement que le non vient surtout des cantons alémaniques où les majorités sont bourgeoises. Maintenant, c'est notre point de vue qui prévaut dans la discussion, mais il va de soi que tous les partis devront faire des pas en direction des autres, et c'est clairement ce que nous attendons de la gauche.
Elle pose, Petra Gössi, maintenant le défi du futur. On l'a dit, c'est 6 ans de travaux qui sont réduits à néant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer, Anne-Sédou Christ?
Bien, écoutez, j'attends que la droite majoritaire au Parlement fasse des propositions rapidement pour qu'on assainisse, mais qu'on maintienne et qu'on préserve les premiers et deuxièmes piliers pour le futur de la population. Donc la balle est dans leur camp. Je rappelle que l'extrême gauche au Parlement est représentée par une seule personne. Donc je crains un peu que la gauche de la gauche ait fait un combat contre cette réforme qui va se retourner contre leur électorat.
Jacques-André Maire, conseiller national socialiste neuchâtelois, a dit cet après-midi que c'est un travail parlementaire très délicat qui s'annonce, d'autant que chaque camp était arrivé au bout des compromis acceptables. Est-ce que, Anne-Sédou Christ, on va encore réussir à discuter, on va encore réussir à remettre tout ça sur la table pour aboutir à une solution commune?
Écoutez, on est en démocratie, on est obligé de discuter, le peuple a rendu sa décision, on doit absolument trouver des solutions. Personne ne contestait que cette réforme était importante et urgente, donc on doit aller de l'avant. Maintenant, la réforme qui était proposée correspondait à la majorité de ce que voulait la droite. Je crois que du point de vue du centre et de la gauche, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. J'attends de voir maintenant quels efforts la droite sera prête à faire pour notamment garantir les rentes dans le premier pilier.
En tout cas, c'est un très vaste chantier qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Ça ne sonne pas la fin des débats sur la réforme de retraite, mais presque un nouveau départ, en tout cas. nouveau début?
Ce sera un débat perpétuel, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On a à chaque génération, à chaque législature, des nouveaux défis. Et puis, on l'a vu, hein, dans les 50 premières années de l'AVS, il y a eu 10 ans, 10 révisions. Donc on voit bien que c'est des chantiers qui sont en permanence ouverts et qui vont continuer à l'être. Et c'est pour ça que ceux qui disent « Ah, c'était qu'une réforme pour 15 ans », mais 15 ans, c'est déjà pas mal. Et c'était 15 ans où on maintenait les rentes et on garantissait leur financement.
On va évoquer aussi, en quelques mots, l'arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire qui a, lui, été plébiscité dans tout le pays. 78,73% de oui au niveau national. Aucun canton, d'ailleurs, ne s'y est opposé. Le Jura l'a accepté à près de 90%, 76% dans le canton de Berne. La Suisse est le premier pays au monde à garantir la sécurité alimentaire. Le oui est plus accentué en Suisse latine qu'en Suisse alémanique. 92% d'acceptation dans le canton de Vaud. On l'a dit, 90% dans le Jura. Le oui le plus timide, finalement, il vient de Schwyz avec 69%. On écoute l'analyse de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
À vaincre sans péril, triomphe-t-on sans gloire. C'était un combat gagné d'avance par les agriculteurs suisses parce qu'ils avaient accepté de mettre beaucoup d'eau dans le vin de leur initiative en faveur de la production agricole indigène. Cette eau, c'est une référence à la préservation des ressources et une agriculture répondant aux exigences du marché, ce qui génère des interprétations multiples de la fameuse sécurité alimentaire, protectionniste, écologique ou libérale. Faute d'opposants organisés, ce fut un monologue des paysans pour un article plus symbolique que contraignant. Il ne faut toutefois pas minimiser la victoire écrasante des agriculteurs. Ils disposent d'une forte légitimité populaire pour défendre les paiements directs régulièrement soumis aux coupes fédérales. Ils pourront aussi prendre au mot les Suisses, non plus comme des citoyens, mais comme des consommateurs pour les inciter à la cohérence et à acheter leurs produits, même s'ils sont plus chers. Pour autant qu'ils parviennent à s'organiser dans les interprofessions, les paysans devraient aussi peser d'un plus grand poids face aux grands distributeurs. Encore qu'à ce propos, le ministre de l'Agriculture, Johann Schneider-Hamann, ne jure que par le marché et non l'interventionnisme.
Anne Sedoukris, vous étiez aussi favorable à la sécurité alimentaire, résultat sans surprise. Maintenant, il va falloir concrétiser. Concrètement, ça veut dire quoi, ce qui vient d'être voté, en quelques mots, pour les producteurs, pour nos consommateurs aussi?
Alors, écoutez, je crois que c'est d'abord un fort signal en faveur de l'agriculture et des produits agricoles suisses dans la Constitution. Je crois qu'effectivement, ça renforce la position de l'agriculture. En même temps, le Conseil fédéral a dit tout de suite que ça ne donnerait pas lieu à de nouvelles subventions. Mais on est en pleine discussion sur le futur programme politique en matière agricole. Et je crois que ça donne une belle légitimité aux agriculteurs pour défendre leur position, et aussi pour une agriculture durable, pour la protection des ressources. Ça met aussi une responsabilité sur nous, les consommateurs, pour d'une part moins gaspiller, d'autre part peut-être acheter plus local, plus durable, même si jamais c'est à un prix un peu supérieur.
Cet arrêté fédéral, il pose un principe fondateur qui va être maintenant ancré dans la Constitution. Par contre, très concrètement, on attend maintenant les solutions précises qui doivent émerger, parce que ça reste un petit peu abstrait pour nos auditeurs, notamment la sécurité alimentaire.
Oui, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose qui est décrit au niveau international par les associations en matière d'alimentation. Donc c'est vrai qu'on devra mettre ça en œuvre. Moi, j'ai pas maintenant, à l'heure actuelle, les clés de mise en œuvre. C'est un travail qui devra se faire au niveau du département compétent et puis évidemment avec tous les acteurs de ce domaine pour voir dans quelle manière on peut mieux tenir compte et mieux assurer cette sécurité alimentaire qui est déjà bien assurée maintenant mais qui se trouve renforcée par cet article.
Un grand merci Anne Sedoukris d'avoir été avec nous pour commenter ces différents résultats. Très bonne soirée à vous.
Merci à vous, belle soirée à tout le monde.
On va passer maintenant aux objets communaux qui étaient soumis aussi à votation aujourd'hui, ce dimanche. Villeray et La Ferrière, notamment, qui disent non à un futur projet de fusion dans le vallon de Saint-Imier. Ce sont les deux seules communes sur sept qui l'ont rejeté, à 69% pour Villeray, 60% pour La Ferrière. Dans les autres localités, c'est le oui qui l'emporte en moyenne à 65%. Le projet se poursuivra donc, mais Richard Abéguer, le maire de Villeray et président du comité de pilotage de fusion, déplore ce résultat qui va rendre les collaborations intercommunales très compliquées.
Alors, il est clair que lorsque le train est passé, après, il sera difficile de le rattraper. Et je pense qu'en ayant été dans ce projet jusqu'au bout, on aurait pu agir de manière proactive. Tandis que là, on va probablement plus subir. Et j'ai certaines craintes quant à la poursuite des collaborations intercommunales qui sont actuellement très nombreuses. Il y a 48 collaborations intercommunales qui sont en place dans le Vallon. Et donc, il y en a énormément, beaucoup. Donc, il faudra qu'on reprenne tout ça et qu'on puisse collaborer. Il faudra effectivement qu'on puisse collaborer à l'avenir, mais peut-être que ce sera plus difficile pour Villeray et pour ses autorités. Nous devrons subir, et s'il y a 5 communes de Renan jusqu'à Courtelerail qui sont ensemble et que nous, on est là au milieu tout seul, je pense qu'on ne nous écoutera pas forcément autant que si on avait été dans le projet jusqu'au bout.
Et suite à ce résultat, Richard Abeguer a annoncé qu'il abandonnait son poste de président du comité de fusion. Son successeur n'est pas encore connu. La future votation sur la fusion pourrait-elle avoir lieu courant 2020 ou 2021 ? Les feux sont définitivement ouverts pour le campus biennois de la Haute École spécialisée bernoise. Les électeurs ont accepté aujourd'hui à 85,6% la conclusion du contrat de droit de superficie avec l'encanton de Berne pour lui mettre à disposition le terrain nécessaire sous forme de location. Les votants ont également approuvé à 82,3% un crédit d'engagement de un peu plus de 14 millions de francs. La somme sera utilisée pour l'acquisition de 6 parcelles qui n'appartiennent pas encore à la ville de Bienne, mais aussi pour des démolitions ou encore pour l'assainissement des sites pollués et les fouilles archéologiques. La directrice des finances de la ville de Bienne, Sylvia Steidley.
Je suis extrêmement satisfaite puisque les Biennois ont accordé leur confiance pour la réalisation de ce campus. Ce sont deux objets importants, relativement techniques, mais avec cette votation, ils disent aussi oui à la réalisation du campus, puisque c'est là-dessus qu'ils peuvent se prononcer et non pas sur le crédit de réalisation qui est, lui, de la compétence du canton.
Finalement, ce résultat, ce n'est pas une surprise, il est en quelque sorte attendu.
Ce n'est pas vraiment une surprise puisque déjà la modification de la réglementation en matière de construction avait déjà été plébiscitée en 2013 par 83% de la population. Deuxième objet important, déjà des acquisitions de terrain avaient aussi été dans ce secteur plébiscitées à plus de 80%. Finalement, le peuple dit oui, il suit par là le Parlement qui lui avait accepté ces deux objets à l'unanimité.
À propos recueilli par Anastasia Lirti, la population n'aura plus à se prononcer sur ce dossier. Si tout se passe comme prévu, le campus ouvrira ses portes en 2022. Sachez encore que les Biennois ont accepté de justesse la révision partielle du règlement sur les places de stationnement. À Corcelles, on a élu aujourd'hui une nouvelle conseillère communale à l'occasion d'une élection complémentaire. Il s'agit de Priscille Beuret-Matté qui décroche 39 voix. Elle n'a pas encore confirmé si elle acceptera cette fonction. Un autre candidat arrive juste derrière avec 30 bulletins. 10 autres personnes de la commune ont reçu quelques voix éparses. Raymond Treuler a lui été élu maire de la commune mixte de Plateau de Diès. Le maire sortant l'emporte avec 54% des suffrages. Taux de participation pour cette élection communale, 49%. Les candidats au conseil communal ont tous été élus, sauf Jasmina Bourquin qui ne récolte pas assez de voix. Dans le Jura, les différents objets communaux soumis à votation ont tous été approuvés. D'abord à Porrentruy qui dit oui à l'autonomisation du foyer Les Planchettes à 84%. L'EMS qui fait actuellement partie de la commune est donc appelée à devenir une société anonyme pour poursuivre son développement. Les Brintrutins ont également accepté un crédit de 4,7 millions de francs à financer par le syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées de Porrentruy et environ, une somme qui servira au traitement des micropolluants. Porrentruy était la dernière commune à se prononcer sur ce dossier. Haute-Sorne et Valterbi ont toutes deux approuvé les règlements d'organisation et d'administration du SEDE et du CEODE. Cela concerne d'une part l'assainissement des eaux usées, d'autre part la gestion des déchets pour Delémont et ses environs. Et Valterbi a également accepté à 75,7% un crédit d'1 540 000 francs pour le raccordement des eaux usées du village de Montsevelier au SEDE. Enfin, la modification du plan d'aménagement local a également passé la rampe à Haute-Sorne avec 84% de oui. C'était l'un des plus gros enjeux du jour dans le canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds ne verra pas son nouvel hôtel judiciaire. 59,1% des Neuchâtelois ont rejeté aujourd'hui le projet de centralisation des instances judiciaires du canton dans la cité horlogère. C'est un échec pour le Conseil d'État qui s'était battu pour ce projet estimé à un peu plus de 48 millions de francs. La réaction du conseiller d'État neuchâtelois en charge de la justice, Alain Ribaud.
On peut y voir ce qu'on voit toujours dans ce genre de situation, c'est cette crainte du changement, cette crainte de devoir faire différemment, cette crainte peut-être de certains magistrats du bas de devoir aller travailler aussi loin que la Chaux-de-Fonds. Et je pense qu'on n'a pas réalisé encore que les régions étaient finalement plus proches qu'il y paraît dans notre canton, et on doit le réaliser dans l'organisation qui doit intervenir. Voilà, ensuite, bien sûr, le montant était important. On sait que le bâtiment tel qu'il était prévu vaut le montant qui était à mettre en cause. C'est un montant qui permettait des économies de fonctionnement. Donc, on avait vraiment un bon sentiment du point de vue du projet tel qu'il existait. Après, on a bien sûr compris qu'il y avait des réticences, que les avocats du bas n'étaient pas enchantés d'aller plaider à la Chaux-de-Fonds. Et au fond, on su fédérer autour de la peur des montants à investir pour qu'au final, ce projet soit rejeté.
Et par ailleurs, les Neuchâtelois ont dit oui à 58% à la réforme des institutions qui prévoit une baisse du nombre de députés et un cercle électoral unique. Ils ont également accepté le report de l'harmonisation des impôts. À Bienne, un homme a été attaqué et blessé ce dimanche tôt dans la matinée. Il retirait de l'argent au bureau de poste quand il a été abordé par trois individus vers 5h40. Ils lui ont demandé de l'argent puis l'ont agressé alors qu'il tentait de fuir. La victime a été blessée et a finalement dû être emmenée à l'hôpital par une patrouille pour un examen médical. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Sous le soleil, c'est toujours mieux. Le Corso Fleuri de la fête des vendanges de Neuchâtel s'est tenu sous le soleil cet après-midi. Plus de 55 chars, groupes d'enfants, animations, fanfares et guggenmusik ont pris part à l'événement. Pour cette 92e édition de la fête, le Corso a été repensé. De nouvelles techniques de construction ont été utilisées. Marie-Lise Saillard s'est glissée dans le cortège pour s'approcher de Gérard.
Nous sommes représentants des Fêtes de la Vigne de Dijon, un des plus importants festivals internationaux de folklore d'Europe. Et nous avons des liens très, très étroits avec la ville de Neuchâtel. Peut-être que vous avez entendu parler du Kir. Donc, c'est originaire de Dijon avec le chanoine Kir. Et il est venu en 1945 à la Fête des Vendanges. Il était maire de Dijon à l'époque. Et quand il est revenu, il a dit « on fait la même chose à Dijon ».
Il a copié ?
Non, il s'est inspiré. Et il a dit « je veux faire la même chose de festif ». C'était tout de suite après la guerre. Et sont nées les Fêtes de la Vigne. On est là cette année avec un ensemble antillais, avec des représentants de différentes nations.
Et vous, donc, vous avez une sorte de petite poussette qui est bien remplie.
Dans ma petite poussette, voilà, on va faire déguster tout le long du parcours du cortège un vin rouge et un vin blanc et une spécialité de la ville de Dijon, du pain d'épices.
Ambiance festive, vous l'entendez, du côté de Neuchâtel, et la fête des vendanges se poursuit jusqu'à ce soir minuit.
Sport.
Émilie Moumentaler pour faire le tour de l'actu sportive. On commence avec Peter Sagan qui signe un triplé historique en cyclisme.
Oui, il a conservé son titre de champion du monde cet après-midi à Bergen, en Norvège. Le Slovaque s'est imposé devant Alexander Kristoff après 267,5 km devant un très fervent public. Il revêt le maillot arc-en-ciel pour la troisième année consécutive. Peter Sagan s'est fait discret tout au long de la journée. Bien placé dans les 7 derniers kilomètres, le Français Julian Alaphilippe s'est fait rattraper par le peloton des favoris et la course est finalement décidée au sprint. Dans la région, Jeremy Hunt a pulvérisé le record du trophée de la Tour de Mouron. La Jouloire a remporté ce matin la 5e édition de cette course à pied organisée par le groupe sportif Malrebet-Villard. Il a mis 50 minutes et 31 pour parcourir les 11,8 km du parcours qui compte 816 mètres de dénivelé positif et 196 mètres de dénivelé négatif entre Malrebet et le pied de l'édifice. Jeremy Hunt efface ainsi sa précédente marque qui datait de 2015 de 2 minutes 16. Le coureur de Perfit Gilles Bailly et le courtisan Michael Morand sont relégué à plus de 4 minutes, Jeremy Hunt.
J'avais vraiment des très bonnes jambes. Bon, j'ai fait un départ très tranquille. On est parti avec Michael et Séverine jusqu'au premier kill. Puis dès qu'on a commencé de monter, enfin, ça a commencé à bien monter, j'ai accéléré, j'ai vu que je pouvais tout le temps accélérer. Donc après, j'ai fait vraiment le gros effort à partir de la montagne de Sceaux jusqu'à l'arrivée.
Vous pensez pouvoir faire notre beau chrono aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Je venais ici pour faire du tempo, prendre du plaisir, faire de la côte avant Mora Fribourg. Je pensais non plus pas forcément gagner. Mais après, quand j'ai vu que j'étais vraiment bien, j'ai accéléré et puis le record, il a la clé.
C'est votre première participation dans le trophée Jurassia cette année. C'était pas vraiment des rendez-vous qui étaient dans votre agenda ?
Non, alors le trophée cette année, je l'ai un peu mis de côté. Parfois, c'est dommage pour le Jura, mais j'avais d'autres objectifs, d'autres courses aussi d'un autre niveau. Puis ben, je suis allé me frotter un peu ailleurs et puis ma foi, l'année prochaine, éventuellement en faire un peu plus.
Chez les dames, c'est Morgan Croza qui s'est imposée. La tête de Souls a signé un temps d'1h06min46s pour largement dominer la chaudefonnière Romane Gauthier et la brelotière Marianne Froidevaux. Vous entendrez d'ailleurs Morgan Croza demain dans la matinale. Et le record de participation a également été battu puisque c'est plus de 360 coureurs qui ont rallié la Tour de Mouron. Les organisateurs ont le sourire avec près de 700 participants accueillis sur l'ensemble de la journée. Léa Jeanbrun, championne de Suisse en gymnastique et danse. La Jurassienne a remporté la médaille d'or du concours individuel sans engin chez les actives samedi à Bad Ragaz au Grison. Avec une note de 9,74, c'est le premier titre national pour la sociétaire de la FSG Courfeyre qui avait déjà obtenu plusieurs médailles. Cette première place est la concrétisation de beaucoup d'années de travail pour Léa Jeanbrun.
En arrivant là-bas, j'avais comme but justement de réaliser mon rêve. Mais malheureusement, j'ai un peu raté, si on peut dire ça, mon premier programme. J'ai fait quatrième et pour moi, la finale était presque impossible parce qu'il restait beaucoup de notes. Et finalement, j'ai quand même été prise pour la finale et je suis montée de la quatrième à la première place. C'est assez rare, donc j'y croyais vraiment pas en fait.
Donc vous avez réussi à vraiment vous détendre pour le deuxième passage ?
Oui, le stress était un peu redescendu. Car je me suis dit que depuis la quatrième place, je ne pouvais que monter ou rester à la même place. Donc je me suis dit, je mets toutes les chances de mon côté et j'ai tout donné. Et puis j'ai fait un programme que j'aurais jamais pensé réussir autant bien. J'ai vraiment tout donné jusqu'au bout de mon énergie et ça a payé.
Associée à sa partenaire de toujours, Julie Etic, Léa Jeanbrun est également devenue vice-championne de Suisse à deux avec engin à main hier au Grison. On passe au football avec le succès de Young Boys 1-0 à Tourbillon en Super League. Le leader compte désormais 5 points d'avance sur Saint-Gall, qui l'a emporté 3-0 devant Thun. Grâce au Père est allé battre la Lanterne Rouge Lugano 3-0. En Challenge League, Neuchâtel Xamax reste en tête de la hiérarchie après son succès 1-0 à Winterthur. Servette est toujours 3e avec 4 unités grâce à sa large victoire 5-1 à Wohlen. Vaduz a battu Chiasso 1-0. En deuxième ligue interrégionale, le FC Moutier a décroché 3 points qui lui font du bien. Les Prévotois ont gagné 1-0 cet après-midi sur la pelouse de Binningen. Les Bleus et Blancs relèvent ainsi la tête après 2 revers consécutifs. Au classement, ils sont 9e avec 4 points d'avance sur la zone rouge. Azuribien a lui remporté le duel des mal classés du championnat de deuxième ligue. Les Célandais ont dominé Courgenay 3-2 et prennent 3 points d'avance sur la barre et leur adversaire du jour avant-dernier. On descend encore d'un échelon dans le groupe 7 de 3e ligue où Delémont a dominé son voisin Courandelet en milieu de classement. En inline hockey, la deuxième garniture du SHC Rosmaison s'est qualifiée pour les demi-finales des playoffs de Ligue B. Les Jurassiens ont remporté cet après-midi le troisième acte décisif de leur quart de finale. Ils ont dominé Wolfurt 10-3 au Forum Biwi. Et pour finir, Thomas Lüthi finit au pied du podium du Grand Prix d'Aragon. Le pilote bernois de Moto2 a fini quatrième aujourd'hui en Espagne. Il perd du terrain au championnat du monde puisque c'est son rival Franco Morbidelli qui s'est imposé. L'Italien compte désormais 21 points d'avance sur le Suisse alors qu'il reste 4 courses à disputer. Dominique Aguerter s'est classé 12e, Jesco Raffine 23e. En MotoGP, la victoire est revenue à l'Espagnol Marc Marquez, alors que Valentino Rossi s'est classé 5e. L'Italien a effectué son retour après une grave blessure à la jambe. Et en Moto3, c'est le leader du championnat, l'Espagnol Joan Mir, qui l'a emporté.
Merci beaucoup Émilie, on vous rappelle juste les deux principales informations de la soirée avec donc la réforme des retraites qui a été retoquée par le peuple suisse et par les cantons, l'arrêté sur la sécurité alimentaire qui lui a été largement adopté. On reviendra évidemment sur ces résultats et sur ces deux objets de votation fédérale demain dans la matinale. Et puis c'est chez également qu'en Allemagne où se déroulent les législatives aujourd'hui, Angela Merkel avec son parti arrive largement en tête. Elle obtient selon les estimations 32,5% des voix et il faut noter également que l'alternative pour l'Allemagne, partie de la droite populiste, fait son entrée au Bundestag. Et on passe à vos conditions météo pour ce soir et demain lundi. La nuit qui s'annonce calme, pas de pluie prévue. Demain matin, quelques bandes brouillard et des nuages, mais tout cela va se dissiper pour laisser place au soleil. Le ciel devrait par contre s'assombrir dans l'après-midi avec une couverture nuageuse qui va se densifier. Pas exclu qu'on ait quelques averses demain en soirée. Côté température, elles sont de saison en ce début d'automne, entre 7 et 9 degrés demain matin en pleine. On approchera les 20 degrés dans l'après-midi, 17 à Tavannes et Tramelan, 19 à Porrentruy, 20 à Delémont et la maximale pour Bienne avec 20 21 degrés, excellente soirée.